Suivez Éco d'ici, Éco d'ailleurs avec la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans votre émission. L'actualité économique dominée cette semaine par les négociations à la COP27. Au cœur des débats, le respect des engagements des pays du Nord pour financer la transition des pays du Sud.
Nous sommes pour une transition verte, juste et équitable, en lieu et place de décisions qui portent préjudice à notre processus de développement. Nous voulons aussi aller de l'avant dans l'adaptation au changement climatique, financée souvent par recours à la dette, alors même que la mise en œuvre doit être financée par des dons conformément aux engagements convenus.
Nous devons aller au bout de la solidarité financière, aider à convaincre les derniers pays riches qui n'ont pas pris tous leurs engagements, mais surtout on doit débourser beaucoup plus vite et trouver des mécanismes pour que cet argent arrive vers le Grand Sud.
Macky Sall, le président sénégalais, Emmanuel Macron, son homologue français, de la bonne volonté, oui, mais pour quel résultat ? Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, lui aussi à Sharm el-Cheikh, place le monde devant ses responsabilités.
Humanity has a choice, cooperate or perish. It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact.
Coopérer ou mourir, un pacte de solidarité ou alors un suicide collectif. Des propos qui vont résonner lorsque vous allez entendre dans quelques minutes l'entretien que nous a accordé un très grand économiste américain, Jeremy Rifkin, théoricien de la troisième révolution industrielle et penseur de l'écologie positive. Long entretien où il est aussi question des solutions pour sauver l'humanité. À ne pas manquer. Comment lutter contre le réchauffement ? Nous serons au Fidji, dans l'océan Pacifique, et en Bretagne, dans l'ouest de la France. Une entreprise y a mis au point un système de toiture capable de réfléchir la chaleur du soleil en cas de canicule. Le marché est porteur. Alors que les dirigeants des grandes puissances, hormis Vladimir Poutine, s'apprêtent à se retrouver cette semaine au G20 en Indonésie, pour parler peut-être aussi de climat, le monde de 2022 est toujours embarqué dans une terrible guerre militaire et économique. La guerre du blé et des céréales, plus généralement, le corridor ukrainien va-t-il tenir malgré les menaces de la Russie ? Une nouvelle échéance approche. Entretien exclusif accordé à RFI par Nicolas Solski, ministre ukrainien de la politique agraire et de l'alimentation. Il s'exprime aussi sur l'approvisionnement de l'Afrique. Vous en découvrirez un extrait dans un instant et nous ferons le point avec une analyste de ce marché plus que volatile. Et pour changer d'air, musique. Oui, la musique qui fait sa révolution en Afrique. Le streaming, la digitalisation, toutes les innovations qui seront au centre du Salon des industries musicales en Afrique francophone. Ce sera dans quelques jours à Abidjan. Nous serons avec son organisateur et nous entendrons les jeunes Ivoiriens sur leur nouveau mode de consommation, rivés sur leur téléphone portable. En voilà un joli programme. Restez connectés avec nous sur la page de l'émission Éco d'ici, Éco d'ailleurs, sur le site de RFI, rfi.fr. Et sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, notre page RFI Echo. Beaucoup de likes, beaucoup de clics. Après notre grand invité de la semaine dernière, Tosin Panoum Panou, négociateur congolais à la COP27, et de nombreux messages de félicitations pour Saadio Momeni Joachim, ce jeune Camerounais, lauréat du concours 60 secondes pour convaincre de l'Agence universitaire de la francophonie, avec son kit mobile pour recycler les déchets en biogaz. Toutes les photos sur RFI Echo. C'est parti pour un nouvel Éco d'ici, Éco d'ailleurs. Bonne émission à toutes et à tous.
Nous avons exigé des assurances et des garanties de la part de l'Ukraine que les couloirs humanitaires pour les céréales ne seraient pas utilisés à des fins militaires et que rien de tel ne se reproduirait à l'avenir.
Vladimir Poutine, il y a quelques jours, le président russe lâche un peu de lest et revient dans l'accord sur les exportations de céréales à partir des ports ukrainiens, mais il précise que c'est provisoire, conditionné à l'attitude de son ennemi. Une négociation qui fait peser énormément d'incertitudes sur l'approvisionnement mondial en blé notamment. À ce propos, quelle est la position du gouvernement ukrainien? RFI, en la personne d'Abla Junaïdi, journaliste au service économie, a pu joindre le ministre de la politique agraire et de l'alimentation, autrement dit de l'agriculture, Mykolas Solski. Il dresse des perspectives pour les mois qui viennent.
Bonjour Mykolas Solski. Tous les regards sont tournés vers la mer Noire aujourd'hui. La prolongation de l'accord signé en juillet entre votre pays, la Russie, la Turquie sous l'égide de l'ONU, la prolongation de cet accord est toujours en négociation. Quel bilan, quel volume aujourd'hui vous exportez comparé à l'avant-guerre?
Durant les mois de septembre et octobre, nous avons fait transiter par le corridor respectivement 3 800 000 et 3 900 000 tonnes de céréales. Avant la guerre, c'était 5 à 6 millions de tonnes par mois. Mais d'une part, à l'époque, nous étions en paix, tout était plus clair et plus simple. D'autre part, le port maritime de Mykolaïev était fonctionnel, alors qu'aujourd'hui, on dépend essentiellement du port d'Odessa. Et les quelques ports fonctionnels ne le sont pas à leur pleine capacité, parce que les navires transitant par le détroit du Bosphore sont en nombre limité. Enfin, il faut aussi prendre en compte les attaques régulières visant nos infrastructures. Elles ont un impact direct sur nos opérations portuaires. Nous faisons tout aujourd'hui pour que cet accord soit prolongé.
Dire, comme on l'a beaucoup entendu, que le blocage du corridor risque d'entraîner la famine en Afrique, n'est-il pas exagéré?
Non, je ne pense pas que ce soit exagéré, parce qu'on ne parle pas seulement de ce que l'Ukraine a la capacité d'exporter, là tout de suite. Il faut aussi penser à l'année prochaine et à l'année suivante. On projette déjà des ventes moins importantes pour l'an prochain. Si nos agriculteurs ont moins de capacité à vendre leurs récoltes ou si les prix sont trop bas, cela réduira alors leurs chances de planter pour l'année suivante. Et ça, tous les pays du monde pourront le sentir. Parce que cela veut dire que les prix seront très hauts durant les prochaines années et les pays africains ne pourront pas le supporter longtemps. Imaginez donc les effets des prix hauts, pas seulement sur 2 ou 3 ans, mais bien sur 2 ou 3 années.
Justement, comment les fermiers ukrainiens s'organisent dans le contexte actuel de guerre pour les semences?
En ce moment, les agriculteurs sont en pleine période des semences d'hiver et les zones de récolte seront de 25 à 30% moins importantes que l'an dernier à la même époque. Ce n'est pas bon. Et bien entendu, on ne sait pas quelle météo nous aurons l'année prochaine. Peut-être que nous aurons une mauvaise météo qui affectera les récoltes. Par ailleurs, les agriculteurs aujourd'hui ne peuvent pas nous dire combien de maïs ils comptent planter. Tout simplement parce qu'ils n'ont aucune visibilité. Ils ne savent pas combien de revenus ils auront cette année, donc ils ne savent pas ce qu'ils vont faire.
Merci beaucoup, Mykolas Solski.
Mykolas Solski, ministre ukrainien de la politique agraire et de l'alimentation, entretien à retrouver à l'écrit et dans son intégralité sur le site internet de RFI. Cette crise des céréales, où nous mène-t-elle? Pour aller plus loin, j'ai contacté une spécialiste.
Écho d'ici.
Écho d'ailleurs.
Bruno Faure.
Bonjour Hélène Duflo.
Bonjour.
Vous êtes analyste céréales chez Talage, un cabinet d'études agroéconomiques réputé pour son rapport Stratégie Grain. La baisse des exportations ukrainiennes, ou en tout cas les incertitudes autour des exportations ukrainiennes, est-ce que tout cela est compensé actuellement par les autres producteurs dans le monde?
Alors, pour le moment, en ce qui concerne le marché du blé, effectivement, on trouve des disponibilités ailleurs dans le monde, notamment en Russie qui a engrangé une récolte absolument record cette année, mais également en Australie qui a actuellement un blé qui est très compétitif grâce à une nouvelle excellente récolte, malgré par endroits quelques soucis qualitatifs en raison d'inondations, il y a quand même au niveau mondial des disponibilités. Le seul petit bémol qu'on peut donner à tout ça, c'est la récolte argentine qui est revue semaine après semaine en nette baisse. en raison d'un manque de pluie tout au long du cycle de production. Mais globalement, à l'échelle mondiale, oui, il reste des disponibilités qui peuvent compenser la baisse des exportations ukrainiennes.
Et donc ce sont ces disponibilités qui ont permis un atterrissage des cours du blé progressif depuis l'été, disons ?
En partie, oui, effectivement. Et puis aussi parce que les prix depuis mai, mai c'était vraiment le pic des prix des céréales et c'était un niveau de prix complètement décorrélé par rapport aux fondamentaux du marché du blé. Et donc depuis, les prix rattrapent un petit peu ces fondamentaux, il y a des disponibilités et donc les prix déclinent depuis mai.
Alors il y a la disponibilité et puis il y a le transport, hein. Les difficultés commerciales qui ne datent pas de la guerre en Ukraine, ces difficultés peuvent aussi perturber la chaîne d'approvisionnement.
Oui, tout à fait. Donc il y a quand même eu le coût du fret qui a beaucoup augmenté ces derniers mois, mais globalement les choses se passent tout de même correctement sur le marché du blé, d'autant que la demande finalement n'est pas très importante. Les craintes économiques dans de nombreux pays n'ont pas à vocation à augmenter les consommations, on est plutôt sur un recul de la consommation, notamment animale, et une très faible progression des utilisations humaines et industrielles, notamment du blé meunier pour la farine.
Donc on peut tabler sur des cours du blé qui resteraient à peu près au même niveau là, pour les prochains mois ?
On peut plutôt même envisager une baisse des cours du blé, parce que comme je vous disais, il y a des disponibilités qui sont extrêmement abondantes en Russie. Donc on prévoit plutôt un potentiel de baisse des prix mondiaux du blé. Et ce potentiel de baisse pourrait être moins important si le corridor d'exportation des grains au départ de l'Ukraine n'est pas renouvelé le 19 novembre prochain. C'est une date plutôt importante pour le marché des grains. Mais même si ce corridor n'était pas renouvelé, on prévoirait tout de même un potentiel de baisse des prix du blé, mais un peu plus tard dans la saison, plutôt sur le début de l'année 2023, une fois que les récoltes australiennes seront terminées et donc disponibles pour l'exportation.
Vous avez commencé à évoquer les aléas climatiques. Est-ce qu'ils ont des conséquences importantes sur la production au niveau mondial? On sait que cette année a été émaillée de quelques catastrophes, à la fois des inondations et de la sécheresse.
Alors l'événement le plus marquant de ces derniers mois, c'est la Nina, qui engendre énormément de pluie en Australie et à l'inverse, un temps extrêmement sec sur l'Amérique du Sud et notamment sur l'Argentine. Cette année, la Nina a été très active et c'était vraiment quelque chose d'un fait marquant. Après, on a eu aussi des conditions trop sèches sur les zones de production du blé d'hiver aux États-Unis, ce qui a conduit à une nette baisse des rendements du blé d'hiver aux US. Donc, les disponibilités nord-américaines, elles sont un peu moindres que ce qu'on aurait pu attendre un an auparavant, sachant que 2021 était déjà une année catastrophique pour les productions de blé au Canada et aux US. Cette année, le Canada s'en sort bien mieux que les États-Unis.
On a beaucoup parlé du blé. On surveille aussi les autres céréales. Certaines, on parle notamment du maïs.
Alors la situation est beaucoup plus délicate pour le maïs. Le potentiel de baisse des prix du maïs, il est plutôt faible, voire presque nul. Parce qu'effectivement, en maïs, l'Ukraine compte beaucoup. C'est un acteur important. Et les difficultés de ces derniers mois et les incertitudes autour du renouvellement du corridor sont pas de nature à rassurer ce marché qui est fragile. Et les manques de production, notamment en Europe cette année, se font sentir.
Merci Hélène Duflo.
Je vous en prie.
Hélène Duflo, analyste du marché céréal au sein de la société française Talage. Un marché que nous suivons au jour le jour dans notre chronique Matières premières, Marie-Pierre Olfant et Altine Lazage du lundi au vendredi sur RFI et RFI.fr.
RFI, la radio du monde.
Je vous l'ai promis, le voici un long moment avec l'un des grands penseurs de notre époque. Pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs, c'est Ariane Gaffury du service économie de RFI qui s'est entretenue avec Jeremy Rifkin. Cet économiste et sociologue américain, spécialiste de prospective économique et scientifique, imagine notre monde de demain. En 1988, il y a 35 ans, il ne s'est pas trompé d'ailleurs, puisqu'à Washington, il a fait se rencontrer des scientifiques du climat et des militants écologistes de 35 pays. C'était la première réunion du réseau mondial sur l'effet de serre. Il donnait à l'époque, lui, le théoricien de la troisième révolution industrielle, des conférences sur le réchauffement climatique. Il a conseillé depuis de nombreuses personnalités politiques, dont Angela Merkel. Jeremy Rifkin, 77 ans, aujourd'hui, une voix qui porte dans le monde. Il publie un ouvrage, « L'âge de la résilience » aux éditions Les Liens qui libèrent, un livre mi-pessimiste, mi-optimiste. Voici cet entretien, réalisé donc par Ariane Gaffuri, traduction assurée par Vincent Souriot.
Jeremy Rifkin, bonjour.
Hello, good morning.
Vous dites dans votre nouvel ouvrage, nous sommes devenus des pillards qui ont mis la nature pratiquement à genoux et elle revient en force pour se débarrasser de nous. Comment est-ce le cas ?
Si vous vous penchez sur l'histoire de la civilisation occidentale, notre histoire a commencé avec Abraham dans la Bible. Dans la Bible, Dieu crée le jardin d'Éden. Il expulse Adam et Ève du jardin parce qu'ils lui ont désobéi et leur dit « Je te donnerai, ainsi qu'à tous tes héritiers, le contrôle de toute vie sur terre. » Ce mandat s'est maintenu dans toutes les religions occidentales pendant des milliers d'années jusqu'à l'ère du progrès, qui était d'ailleurs une idée française. Rappelez-vous, en 1794, l'aristocrate Nicolas Condorcet attendait en prison d'être guillotiné pour insurrection, mais il a pris le temps d'écrire quelques mots qui sont devenus historiques. Il a dit que l'être humain pouvait progresser sans limite tant que la planète existerait. C'est l'âge du progrès. Et c'est cette vision du monde qui nous a conduit, au cours des 200 dernières années, à une extinction de masse. C'est-à-dire que tous les jours, partout dans le monde, les pandémies se succèdent, les catastrophes climatiques aussi, avec une recrudescence des inondations, des sécheresses, des incendies de forêt et des canicules. Nous en sommes à la sixième extinction de vie sur Terre. Personne n'en parle vraiment, et nos enfants pourraient voir, au cours de leur vie, disparaître plus de la moitié des espèces qui peuplent la Terre.
Jeremy Rifkin, vous dites que l'ère du progrès, qui a, cela dit, permis notre développement, est à l'agonie et doit être remplacée par la résilience.
Nous devons tout d'abord changer notre conception du temps et de l'espace. L'ère du progrès repose sur l'efficience. C'est sa valeur principale. L'efficience, cela signifie s'autoriser à extraire des quantités de plus en plus importantes de ressources planétaires qui rendent la vie possible, et ce, dans des intervalles de temps de plus en plus courts. C'est-à-dire extraire de plus en plus d'hydrosphère, d'eau, de sol, de plantes, d'arbres, d'atmosphère, d'oxygène, de biosphère.
We did it in 200 years. And now, what's very interesting is if you take, for example, photosynthesis.
On le fait depuis 200 ans, on consomme et on jette. Prenons, par exemple, la photosynthèse, c'est la production primaire, c'est la richesse de la planète. Or, notre espèce humaine utilise aujourd'hui 25% de toute la photosynthèse de la planète, alors que nous ne représentons que 0,5% de la biomasse. Et on utilisera jusqu'à 40% de photosynthèse d'ici 2040, pour n'en laisser qu'un peu plus de la moitié au reste des créatures vivantes. Ce n'est pas viable.
When my father was born, in 1908, and when he was born, 85% of this earth was still wild, no human intervention.
Quand mon père est né, il est né en 1908, 85% de la terre était encore sauvage, aucune intervention humaine, 85% encore sauvage. Elle ne l'est plus qu'à 25% aujourd'hui, le reste est occupé par l'homme. Et dans 20, 30, 40 ans, il n'y aura plus de terre sauvage. Comment préserver la vie sur Terre si toute la richesse de la planète a disparu ? L'efficience doit donc être repensée et nous commençons un peu à passer de l'efficience à l'adaptabilité. Autrement dit, à apprendre à nous adapter à la nature au lieu de faire en sorte que la nature s'adapte à nous.
Adaptivity means that we learn to adapt to nature rather than nature adapting to us.
Jeremy Rifkin, certains pays développés, notamment les États-Unis ou encore la Chine, polluent plus que les pays en voie de développement qui sont trop pauvres pour polluer. Vous rappelez dans votre nouveau livre, L'âge de la résilience, que près de la moitié de la population mondiale vit au-dessous du seuil de pauvreté, avec moins de $5,50 par jour. Ces pays peuvent-ils entrer directement dans l'âge de la résilience sans passer par l'âge du progrès?
C'est une question importante. Il y a quelques années, je travaillais avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, l'ONUDI, avec Kande Yumkela, qui en était le directeur général. Et à ce moment-là, nous avons réalisé que nous avions mal compris comment le monde en développement pouvait avancer. En réalité, ce qui est un handicap est un atout. Je m'explique. Dans le monde en développement, il n'y a pas d'infrastructure pour le type de révolution que nous souhaitons. Pourquoi est-ce un atout ? Parce qu'il est plus facile de créer les nouvelles infrastructures de la troisième révolution industrielle, la révolution numérique, si vous partez de rien, avec de nouveaux codes, de nouvelles normes, de nouvelles réglementations.
It's more difficult for the more developed countries because they're locked into an older
C'est plus difficile pour les pays développés parce qu'ils sont bloqués dans les vieilles infrastructures de la deuxième révolution industrielle, avec les anciennes réglementations, les intérêts particuliers, les entreprises qui ne veulent pas abandonner ce qu'elles font. Donc, dans le monde en développement, par exemple, le passage à l'électricité solaire et à l'éolien évolue très rapidement, et dans de nombreux endroits plus rapidement que dans les pays hautement industrialisés, parce qu'ils partent de zéro. Comme vous le savez, notre équipe mondiale a été parmi les principaux architectes du plan de l'Union européenne au cours des 22 dernières années. Nous avons développé le Pacte vert pour l'Europe. Nous avons également travaillé ces 10 dernières années avec la République populaire de Chine. Leur plan s'appelle Digital Internet Plus et Civilisation écologique. Et plus récemment, nous avons travaillé avec le sénateur américain Charles Schumer. Nous avons aidé à développer un plan massif qui est devenu la pièce maîtresse du plan d'infrastructures de Joe Biden. Les entreprises avec lesquelles nous travaillons sont des entreprises et des industries capables de mettre en place la troisième révolution industrielle. Et dans l'ensemble, elles constatent que les choses peuvent aller plus vite dans le monde en développement pour les raisons que je viens d'évoquer.
Jeremy Rifkin, le nouveau modèle de résilience que vous proposez repose, dites-vous, sur la pérocratie distribuée, autrement dit la gouvernance par les pairs, la participation de tous au sein des communautés et des éco-régions. Ce modèle qui existe déjà avec le tissu associatif, les actions des organisations non gouvernementales, va exiger des investissements et la création de nouvelles catégories professionnelles et de millions d'emplois nouveaux, dites-vous, dans les services aux écosystèmes. Lesquels ?
Ils sont liés à une nouvelle façon d'envisager la gouvernance. C'est vraiment essentiel. Il y a deux choses qui modifient notre vision de la gouvernance. L'ère du progrès est allée de pair avec la gouvernance de l'État-nation, comme aux États-Unis ou en France. Aujourd'hui, les catastrophes climatiques se produisent tous les jours et elles traversent les frontières. La gouvernance doit englober cet écosystème commun. Nous allons devoir faire de l'éco-intendance, créer de nouvelles opportunités, ce que nous appelons le capital écologique, créer de nouvelles entreprises. Cela signifie que nous ne devons pas seulement être là pour nous préparer aux catastrophes, nous devons créer des infrastructures de résilience. Ensuite, nous devons créer de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois pour reconstruire les sols que nous perdons, pour replanter les forêts, créer une agriculture écologique. Ensuite, nous devrons installer des services solaires et des services éoliens dans ces zones rurales pour que nous puissions sortir des énergies fossiles et du nucléaire. Nous devons donc passer à la gouvernance biorégionale, sans abandonner la gouvernance traditionnelle, l'État-nation, les régions, les localités, et franchir ses frontières politiques pour partager des écosystèmes communs. Dans mon pays, nous avons déjà deux grandes biorégions. Nous sommes des pionniers. Nous avons les États du Nord-Ouest, l'Oregon, l'État de Washington et l'Idaho. Ces États et certaines provinces du Canada forment un écosystème commun. C'est ce qu'on appelle la Cascadie. Et ils ont mis en place une législation commune, et ce depuis des années, pour faire face aux catastrophes climatiques et à leurs conséquences.
And we have another one called the Great Lakes St. Lawrence bioregion. It's been going now for 10, 15, 20 years.
Nous en avons une autre biorégion, celle des Grands Lacs et du Saint-Laurent, située sur ou tout près de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Ici s'étendent les plus grands lacs d'eau douce du monde. Il y a aussi l'exemple de la Chine, qui a annoncé en septembre la création de 8 biorégions. Ils sont les deuxièmes à le faire. Il n'y en a pas encore en Europe, mais il faut que cela voie le jour.
8 biorégions en Chine. Donc, c'est le second place pour faire ça. Nous n'avons pas anywhere en Europe. But that needs to happen.
Il y a aussi le rôle des assemblées citoyennes. Elles existent déjà dans certains pays. Vous citez dans votre ouvrage l'exemple du Royaume-Uni et de la France. Rappelons qu'en 2020, Emmanuel Macron avait lancé une convention citoyenne sur le climat après le mouvement des Gilets jaunes, avec cette question: comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% dans un esprit de justice sociale? Et 149 propositions ont découlé de ces assemblées citoyennes.
Now there is a place where France has been ahead of the game a little bit. You can't, what we're learning with climate disasters, they're too big.
La France a un peu d'avance dans ce domaine, comme vous le savez. Nous savons désormais qu'aucun gouvernement ne peut gérer seul les catastrophes climatiques. Elles sont trop importantes. D'ailleurs, quand une catastrophe survient, tout le monde se mobilise. Les collectivités, les lieux de culte, les centres d'urgence alimentaire, les écoles. Donc nous devons formaliser ces assemblées citoyennes en tant qu'extension du gouvernement, afin qu'à tout moment, au cours d'une vie, on puisse être appelé à siéger ou à être élu pour siéger au sein de ces assemblées.
They already are citizens' assemblies. And those 12 jurors picked from the public have to come up with the verdict.
Maintenant, dans mon pays, nous avons des jurés choisis parmi le public. Ce sont déjà des assemblées citoyennes. Ils doivent rendre un verdict sur des situations très complexes et ils s'en sortent très bien. Aux États-Unis, 65% de tous les pompiers sont volontaires. L'armée intervient aussi de plus en plus dans les catastrophes climatiques. En Suisse, il y a aussi des assemblées de citoyens dans les cantons. Nous avons donc besoin que ces assemblées soient élues par les localités ou appelées à se mobiliser pour s'occuper de la budgétisation, du financement, des problèmes d'infrastructure, de la surveillance, de l'éducation, de la façon de préparer nos enfants à vivre à l'ère de la résilience.
These are the kinds of things that are really big changes, but they give us hope, because what I'm seeing is people are frightened now. This is everywhere.
Ce sont de grands changements, mais ils nous donnent de l'espoir car les gens ont peur. Et ce que je dis dans ce livre, c'est qu'il est temps de remettre en question tout ce que nous croyons savoir et de renforcer les initiatives qui commencent à voir le jour. Encore une fois, il faut passer de l'efficacité à l'adaptabilité, nous adapter à la nature au lieu de l'obliger à s'adapter à nous.
Dernière question, Jérémy Rifkin. Vous prenez aussi l'empathie envers les espèces et envers notre planète, et vous reconnaissez qu'il y a une prise de conscience de l'urgence climatique chez les jeunes et plus largement dans notre conception de l'économie.
Our young people are on the right track. You know, this Friday for the futures demonstrations around the world.
Je pense que nos jeunes sont sur la bonne voie. Je pense aux grèves étudiantes pour le climat, Fridays for Future, dans le monde entier. Des millions et des millions de jeunes de 143 pays sont descendus dans la rue plusieurs fois ces dernières années pour défendre l'urgence climatique.
And what's interesting about these young people, these Gen Zs, these were the first protests in history.
C'est la première fois qu'une génération tout entière à travers le monde se considère d'abord comme une espèce, puis comme une espèce en voie d'extinction, au même titre que de nombreuses espèces actuellement en train de disparaître. Il s'agit donc d'un changement fondamental de conscience dans l'histoire. Et en même temps, nous commençons à voir des changements dans l'économie, du passage de l'ère du progrès à l'ère de la résilience. Quelques exemples. On passe de l'idée de croissance à l'idée d'épanouissement. On passe du capital financier au capital écologique. On passe de la croissance du produit intérieur brut aux indicateurs de qualité de vie, de l'hyperconsommation à une consommation raisonnée, de la propriété à l'accès, des marchés vendeurs-acheteurs au réseau d'utilisateurs-fournisseurs, des processus linéaires aux processus cybernétiques, de conglomérats d'entreprises aux coopératives de petite et moyenne taille. Autres exemples, des droits de la propriété intellectuelle au partage open source des connaissances, de la géopolitique à la politique de la biosphère. Tout cela se dessine. Ce n'est pas encore un modèle économique dominant, mais c'est là. On le voit dans les conseils d'administration des entreprises, dans les entreprises locales. On le voit dans la façon dont nous commençons à former des générations plus jeunes au numérique. Il y a là une promesse.
Jérémy Rifkin, merci.
Thank you. Bye-bye.
L'économiste américain Jeremy Rifkin, dernier ouvrage « L'âge de la résilience » aux éditions « Les liens qui libèrent » entretient en toutes lettres sur RFI.fr et bien entendu sur notre page Facebook RFI Echo.
Écho d'ici.
Écho d'ailleurs.
Bruno Faure.
Les enjeux climatiques dont nous allons parler abondamment dans les prochains jours à la COP27, notre conseil d'écoute, le grand reportage tourné par Cléa Broadhurst aux îles Fidji, ces îles du Pacifique menacées par la montée des eaux. En voici un extrait au sujet du financement de l'adaptation. Afrique, Fidji, même combat.
Si je prends du recul et que je regarde les solutions et les projets d'adaptation mis en œuvre dans la région, je pense que nous ne saisissons toujours pas l'urgence et le besoin que nous avons dans la région en matière d'adaptation au climat. Pour le moment, on met de la rustine à droite, à gauche. Ce dont nous avons besoin, c'est de cartographier nos vulnérabilités, s'atteler à la sécurité alimentaire, examiner la question des transports, de la connectivité et de l'énergie, s'assurer d'avoir de l'eau potable. Nous avons besoin d'une ligne conductrice de notre adaptation qui peut vraiment s'attaquer à tous ces problèmes de vulnérabilité en même temps. Ce dont nous avons besoin, c'est d'augmenter nos financements et nos investissements pour relever le défi auquel nous sommes confrontés. Nous avons besoin d'une solution d'adaptation qui englobe tous les défis auxquels nous sommes confrontés.
Fidji, des îles du Pacifique en première ligne. Grand reportage de Cléa Broadhurst à podcaster sur RFI.fr. En attendant l'argent, il faut trouver des solutions. En voici une avec l'entreprise Cool Roof dans l'ouest de la France. Cool Roof, en français, toiture fraîche. Reportage pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Alexis Bédu.
Un toit de supermarché d'un blanc immaculé. Cela fait 9 ans que le revêtement spécial fraîcheur imaginé par l'entreprise Cool Roof a été appliqué.
C'est les 8000 m² qui sont là, avec la partie blanche là-bas et la partie blanche là-bas. Tout l'hypermarché a été peint.
On prend un peu d'altitude avec Frédéric Lachèvre, président de Cool Roof France, également gérant de ce centre commercial quimpérois.
Il fonctionne parfaitement parce que la preuve en est, c'est que quand on a eu cette période dite caniculaire au mois de juillet, début août, vous voyez, ce sont les groupes de rafraîchissement qu'il y a. Sur les 5 qui sont ici, pendant la semaine où il a fait le plus chaud, puisqu'on est monté à 36 degrés ici, on a fait fonctionner 2 groupes sur 5 pendant 4 heures. Avant que le toit ne soit fait, on faisait tourner les groupes de avril à septembre, en moyenne une douzaine d'heures par jour.
En plein été, en France, un bitume de toit classique chauffe entre 60 et 90 degrés. La solution proposée par l'entreprise bretonne séduit par sa simplicité, selon Julien Martin Cochet, directeur général adjoint de Cool Roof France.
Lorsque vous appliquez du cool roofing, vous allez garder le support, donc les rayons viennent, frappent le support, mais en fait ils sont renvoyés vers l'extérieur. Donc ils ne chauffent pas le support, donc vous n'avez pas l'enveloppe du bâtiment qui se charge en chaleur et la dispersion qui revient dans la température ambiante. Vous bloquez en fait complètement le mécanisme de chauffe.
Le principe réflectif de la peinture blanche est une invention qui date de 4000 ans, utilisée dans tout le bassin méditerranéen. Mais conséquence du réchauffement climatique, l'entreprise a désormais des commandes de régions supposées fraîches. Un hôpital de Londres est intéressé et en Bretagne, les nouveaux clients affluent. Claude Loussoir est directeur de deux magasins d'électroménager et quincaillerie dans le Finistère. Il a désormais 1200 mètres carrés de toit imprégnés de cette peinture blanche.
Le bâtiment du magasin d'Arty, donc il a 16 ans. On a toujours eu des soucis de chaleur en fait, avec ce bâtiment-là. Plus ça va, plus les salariés déjà se plaignent. Les clients donc également. On ne voulait pas passer par une solution de clim parce que c'est pas trop dans notre ADN et puis on voulait contribuer quand même à préserver l'environnement aussi parce que mine de rien la clim c'est néfaste au niveau de l'environnement.
L'entreprise et sa solution s'internationalisent avec désormais des projets au Sénégal dans le stockage des denrées alimentaires, explique Frédéric Lachèvre.
Les températures à l'intérieur notamment dans un hangar sur lequel on fait une étude qui fait un peu plus de 10 000 m2, c'est-à-dire la maturation des fruits arrive en même temps, tout le stock arrive en même temps et ils ont des pertes de l'ordre de 30, 40 voire 50%. Ça se joue à 3, 4, voire 5 degrés près. Pour autant, on ne va pas climatiser. Il faut trouver d'autres systèmes.
Les enjeux pour l'entreprise désormais, faire connaître sa solution et l'améliorer pour faire face à la concurrence. Les start-up blanchisseuses de toit pullulent en Europe et aux États-Unis.
Reportage d'Alexis Bédu. Et on va continuer d'aller sur le terrain climatique toute cette semaine sur RFI. Des reportages aux Pays-Bas, en France ou encore dans les forêts du bassin du Congo.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Oui, bonjour Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire que nous allons à présent pour parler musique, d'une industrie musicale en pleine révolution.
RFI,
Radio France Internationale.
Bonjour Mambi Diomandé.
Bonjour Bruno.
Vous êtes l'un des directeurs du Live and Brand d'Universal Music Africa. C'est l'un des géants de la musique en Afrique, présent dans 25 pays francophones, hispanophones et lusophones. Live and Brand, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, effectivement, je suis le directeur du Live et du Brand chez Universal Music Africa. Live, pour tout ce qui est lié à la scène, donc production de spectacles, distribution de spectacles. Et le brand, c'est tout ce qui est lié au partenariat et à l'association de l'image des artistes et des marques.
D'accord. Universal Music Africa, le siège social est à Abidjan et c'est là que vous organisez le CIMA, le Salon des industries musicales d'Afrique francophone. La première édition dans quelques jours, les 17 et 18 novembre, qui va réunir les principaux acteurs du secteur. Pourquoi d'abord cet événement et de quoi va-t-on parler précisément ?
Cet événement parce que sur nos territoires d'Afrique francophone en particulier, il y a un véritable manque en termes de structuration et de valorisation et de renforcement de capacité des acteurs de ces industries-là. Donc ce sont des problématiques que nous on vient adresser à travers le Salon des industries musicales d'Afrique francophone, mais également parce que sur notre territoire aussi d'Afrique francophone, on a ce besoin-là d'avoir aujourd'hui des plateformes tourner business et qui permettent aux acteurs d'ici et d'ailleurs de comprendre les logiques business de nos marchés.
Qu'est-ce qu'il faut améliorer immédiatement là pour pouvoir faire vivre les artistes et faire vivre tous ceux qui en vivent au-delà des artistes eux-mêmes ?
Alors, il n'y a pas une seule chose qu'il faut améliorer immédiatement. Il y a pour moi deux choses qui sont essentielles. C'est les problèmes de sensibilisation et les problèmes de formation. Sensibilisation des clients finaux, c'est-à-dire ceux qui écoutent la musique, et formation de tous ceux qui sont acteurs directs de cette industrie musicale, à savoir les artistes et toutes les composantes de la chaîne.
Alors on le sait, Mambi Diomandé, la consommation de la musique a bien changé ces dernières années avec la digitalisation. On va précisément écouter ces consommateurs justement chez vous en Côte d'Ivoire, à San Pedro. Un mot-clé, téléchargement, reportage de l'un de nos correspondants pour Echo d'ici, Echo d'ailleurs, François Humfer-Kataji.
Une plage de sable fin, des nuages rosis par un soleil couchant et une mer apaisante où barbotent au large des paquebots chargés de fèves de cacao. Un décor idéal pour se détendre au rythme des derniers hits ivoiriens. Sous une paillote à même la plage, Joséphine Dié et ses amis ont connecté l'enceinte au téléphone et ont défini une playlist de fin de journée accompagnée de quelques bouteilles de bière fraîche.
Bien sûr, il y a eu une grande innovation. C'est beaucoup plus facile maintenant parce qu'avant, il fallait avoir un poste radio ou alors un lecteur DVD ou une cassette. C'était vraiment compliqué. Là, maintenant, avec YouTube, ça va, c'est rapide, quoi. C'est tac, tac. On peut découvrir toutes les musiques qu'on veut, et puis bon, voilà.
En réalité, le DJ du groupe, Patrick Bié, n'est pas vraiment sur YouTube. Pour économiser des datas Internet, il utilise l'application VidMate, une application pour télécharger de la musique et des vidéos YouTube. Il montre l'exemple sur son téléphone.
Maintenant que tu as ouvert YouTube, tu viens dans Recherche, tu tapes le nom de l'artiste que tu veux. Je prends par exemple Fally Ipupa. Ouais, je tape là, le téléchargement, il commence.
Son ami Grace utilise le même procédé, mais pour iPhone avec Amerigo. Depuis de nombreuses années, c'est aussi une adepte de Shazam, l'application intelligente qui est capable de donner le nom du morceau après en avoir écouté un court extrait.
Il y a Shazam, si je ne me trompe pas, qui nous permet de rechercher directement la musique qui nous plaît, immédiatement, tac, tac, on télécharge et puis bon, c'est parti.
Mais alors, faut-il continuer à payer pour écouter de la musique? Oui, répond Grace, à condition que des moyens adaptés existent.
Mais s'il y a une application qui nous propose les intégralités de différentes musiques à moindre coût, voilà, parce que c'est aussi ça. Et puis très souvent, les applications demandent des cartes Visa, des comptes bancaires. Aujourd'hui, on a des jeunes, on a des enfants qui aiment la musique, mais qui n'ont pas forcément ces différents moyens-là. Ils n'ont pas de compte pour le moment.
Plus loin sur la plage, deux jeunes étudiants ont déjà passé le pas. Sur Boomplay, ils ont déjà dépensé un peu plus de 5000 francs chacun sur cette application sino-nigérienne en vogue qui propose un mix de contenu gratuit et payant. Alors, est-ce que vous utilisez la version gratuite ou payante de Boomplay?
Payante. Je paye l'internet, mais souvent, il y a des sons que tu ne peux pas avoir si tu ne peux pas payer. Moi, ça ne me gêne pas. C'est juste pour le soutien, pour les aider dans ce qu'ils font. Parce qu'ils nous apportent aussi un plaisir, une satisfaction. En écoutant leur musique.
Et malgré les milliers de titres disponibles sur toutes les plateformes, un nom revient en boucle sur la plage de San Pedro.
Didi B, of course.
À l'instant, bon, Didi B.
Je dirais pareil, hein, Didi B, parce que là, c'est on va dire, c'est le game.
Le rappeur ivoirien Dilem Seroué Bassa, à l'état civil, ancien membre du groupe Kif No Beat, fait l'unanimité depuis la sortie de son album Mojo Throne. Avec quasiment 30 millions de streams, il est aussi l'artiste ivoirien le plus écouté sur la plateforme Boomplay, spécialisée dans les musiques africaines.
On connaît la sauce, on connaît la portée, inspiration faut pas forcer, Dieu m'a donné. On connaît la sauce, on connaît la portée, inspiration faut pas forcer, Dieu m'a donné. Yeah. On connaît la sauce, on connaît la portée, inspiration faut pas forcer, Dieu m'a donné. On connaît la sauce, on connaît la portée, inspiration faut pas forcer, Dieu m'a donné.
Didi B dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI. C'était un reportage de François Umfer Kataji Mambi Diomandé, l'un des directeurs d'Universal Music Africa est avec nous. Comment vous réagissez à tout ça? On va détailler ce qu'on a entendu dans ce reportage. Vous avez entendu, hein, tac tac, on télécharge, c'est rapide, on a tout ce qu'on veut immédiatement. Ça, c'est vraiment nouveau pour la jeunesse africaine.
Effectivement, c'est nouveau pour la jeunesse africaine. Moi, je dis que la beauté du digital, justement, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, un artiste peut être écouté sur toute la surface de la Terre. Et en plus, le potentiel d'utilisateurs de smartphones, à savoir 660 millions sur l'Afrique, c'est incroyable. Ça représente déjà une masse importante. Ou une fanbase importante qu'un artiste peut aller chercher à conquérir.
Le smartphone qui s'est généralisé. Et en plus, il y a la pandémie avec les confinements qui a accéléré cette digitalisation.
Oui, effectivement, on a vu bon nombre de concerts qui se sont faits via le digital. On a vu des concepts intéressants qui se sont créés comme des concerts dans des salles vides. Donc je pense que oui, la pandémie aussi est venue pour démocratiser en tout cas cette digitalisation.
Vous avez entendu aussi dans le reportage, on consomme de la musique gratuite, certes, mais on est aussi prêt à payer de la musique quand les moyens existent.
Effectivement, c'est l'un des combats justement du salon des industries musicales qu'on a mis en place. C'est qu'on va aussi adresser une problématique sur le coût de la data. Parce que écouter de la musique, c'est vrai, c'est intéressant via le téléchargement. Mais si cette musique via téléchargement, justement, peut être accessible à tous, par le coût préférentiel de la data, ce sera encore mieux pour les artistes.
Il y a le prix, effectivement. On a entendu quelqu'un dans le reportage dire on essaye d'économiser la data avec des applications spéciales. Voilà, c'est aussi le règne de la débrouille.
Ouais, c'est effectivement le règne de la débrouille quand on sait déjà qu'aujourd'hui, pour écouter de la musique, il faut avoir aussi une carte, soit prépayée ou une carte bancaire, et que le taux de bancarisation sur nos territoires est relativement faible. Il y a des solutions comme le mobile money qu'il faut promouvoir et qui permettra justement, au-delà des économies qui doivent être faites, de pouvoir avoir accès à la musique de façon efficiente.
Oui, c'est ça l'enjeu aussi, c'est de développer des abonnements et de fidéliser la clientèle pour que ça ne soit pas juste du one-shot.
Oui, exactement. Mais après, fidéliser la clientèle, c'est dans le contenu que proposent toutes ces applications de téléchargement. Donc, il faut aussi avoir pour ces applications un contenu qui répond à la consommation du client final. Dans ce cas, on parlera peut-être de promotion de contenu local. Ce sont des choses après sur l'éditorialisation des plateformes qu'il faut revoir.
On le sait, Mambi Diomandé, il y a des plateformes qui se développent en Afrique de l'Ouest, des plateformes venues d'Afrique de l'Ouest. Comment peuvent-elles se défendre face aux géants qui existent déjà et qui sont venus d'ailleurs, Deezer, Spotify, bien sûr, Boomplay, à la fois chinois et nigérian?
Pour moi, la solution, c'est ce que je viens de dire, hein, c'est dans l'éditorialisation de ces plateformes. Mais quand on regarde ce que la musique a généré hors concert en 2017, environ 17 milliards, quand on regarde le taux de pénétration Internet en Afrique de l'Ouest qui est de 42%, je pense qu'il y a de la place même pour ces plateformes locales qui sont créées. Il faut juste travailler sur l'édito de ces plateformes pour que le contenu y soit attrayant et que le contenu y soit adapté aux populations locales.
Ça veut dire quoi? Faire plus de musique locale? Enquêter davantage sur les souhaits de ces consommateurs de musique?
Oui, ça veut dire faire plus de musique locale. Ça veut dire mettre plus en avant la musique locale. Puisque celui qui est à San Pedro, et vous l'avez bien vu dans l'interview, il ne parle pas de Rihanna, il ne parle pas de Jay-Z, il parle de Didi B. Donc c'est-à-dire que le contenu local a sa place pour des populations qui représentent un peu plus de la moitié quand on prend les territoires d'Afrique francophone.
Encore deux ou trois questions, Mambi Diomandé. Est-ce que les droits d'auteur sont suffisamment défendus en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone?
Les droits d'auteur sont défendus, mais j'ai envie de dire que le processus est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que la collaboration entre les bureaux qui sont censés défendre les droits d'auteur, les producteurs et aussi les artistes, il y a cette cohésion qui est en train de se mettre en place pour que ces droits d'auteur et ces droits voisins aussi soient valorisés.
Est-ce que vous trouvez que les gouvernements sont suffisamment actifs en termes de législation pour défendre les artistes?
Les lois, en tout cas, pour tout ce qui est lié aux droits d'auteur et aux droits voisins, existent. Après, c'est dans la mise en marche de ces lois, ou c'est dans l'application de ces lois-là qu'il y a un travail à faire. Mais avant que l'État joue son rôle de régulateur, je pense qu'au niveau des artistes, il y a quand même un minimum d'organisation. Au niveau des producteurs, il y a quand même un minimum d'organisation à avoir pour pouvoir défendre ses droits. Mais ce sont des problématiques aussi qui seront adressées pendant le Salon des industries musicales d'Afrique francophone.
La francophonie musicale, c'est une réalité. Quand on entend, vous avez parlé de Rihanna et d'autres, quand on entend les grands succès mondiaux, c'est plutôt en anglais, peut-être à l'avenir en coréen ou en chinois. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la francophonie musicale?
Je pense que la francophonie musicale et la francophonie dans sa globalité est un sujet qui est important pour le Salon. D'ailleurs, c'est pour ça que nous on axe notre débat ou nos débats sur le monde francophone. On a d'ailleurs le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Et cette francophonie musicale, il faut mettre des choses en place et il faut s'inscrire dans les stratégies de francophonie économique qui existent déjà. Et je pense qu'à travers ce salon, c'est ce qu'on fait.
Merci à vous, Mambi Diomandé, et bonne chance surtout à votre Salon des industries musicales d'Afrique francophone, le CIMA. C'est la première édition, les 17 et 18 novembre prochains, dans quelques jours, donc à Abidjan. Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi, Bruno.
Cette Afrique qui va vibrer dans quelques jours, qui vibre déjà d'ailleurs pour la Coupe du Monde de football, avec le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie, le Maroc. La semaine prochaine, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, on parlera de l'économie du pays organisateur de cette édition 2022, le Qatar, si souvent décrié, mais qui étend son influence dans le monde. D'ici là, on se parle sur RFI Écho pour partager, pour commenter. Dites-nous aussi les thèmes d'actualité qui vous intéressent le plus. Merci à Guillaume Munier, notre réalisateur. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs vous a été proposé par la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement.